France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Penser l'ennemi, c'est ce que nous essayons de faire cette semaine. Aujourd'hui, les théories de la guerre juste, l'hostilité peut-elle être encadrée? Pour les Grecs anciens, apprécier l'opportunité d'entrer en guerre, puis choisir les moyens pour mener cette guerre, tout cela faisait partie du bon jugement politique. L'enjeu était surtout de gagner et de faire de cette victoire une gloire reconnue et mémorable. Pour les Grecs, les récits et les célébrations durables avaient un rôle important de validation et d'analyse a posteriori. C'est très différent de la démarche qui pense la guerre à partir d'une morale préalable. De fait, les théories dites de la guerre juste, qui exhibent des critères a priori et qui sont même capables parfois de retranscrire ces critères sous forme juridique, semblent plutôt liées à l'univers monothéiste où à chaque instant il y a un dieu qui sait et qui juge. Ce dieu garde certes ses mystères, mais on se le représente comme livrant un peu de ses avis aux humains, si ceux-ci le veulent, pour que ces humains se comportent bien ou pas trop mal jusque dans la guerre. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on évoque les théories de la guerre juste? Et que valent ces théories? Elles pensent l'ennemi, ça c'est sûr. En elles, la figure divine a souvent disparu peu à peu. Reste de la morale et du droit. Mais, ricanent leurs critiques, pas de politique. Ah oui, vraiment? Que penser de ce ricanement? Bonjour Julie Saada.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à Sciences Po Paris. Vous réfléchissez aux normes juridiques et éthiques de la guerre et de l'après-guerre. Et bonjour Jean-Vincent Olindre.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris Panthéon-Assas. Vous vous intéressez aux relations internationales et à la philosophie politique. Vos travaux à tous les deux sont mentionnés sur le site de notre émission. Et puis, nous entrerons dans leurs détails dans l'émission elle-même. Pour commencer cette discussion sur les théories de la guerre juridique, et sur leur façon de penser l'ennemi et l'hostilité, je vous propose une archive du penseur Raymond Aron.
Les armes nucléaires, pour la première fois, montrent la pensée profonde de Clausewitz, c'est-à-dire que tout acte militaire est un acte politique, avec pour résultat que la subordination du chef de guerre au chef d'État devient une évidence éclatante, je dirais en plaisantant, que même les militaires reconnaissent.
La plupart des cas, c'est le même. C'est le chef d'État qui appuie sur le bouton, quasiment.
Bien entendu, mais je veux dire qu'il n'est même pas concevable que ce soit un autre que le chef d'État. Alors ne l'oubliez pas, Moltke l'Ancien disait « C'est le chef d'État qui déclare la guerre, mais une fois la guerre déclarée, le général fait tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire. Et puis lorsque la victoire est remportée, revient le diplomate et le chef d'État. » Or, cette dualité... Le début et la fin appartiennent au chef d'État, mais tout le reste appartient aux militaires. Ce qui a été la doctrine officielle de tous les états-majors en Europe, c'est devenu aujourd'hui une absurdité. Et de ce fait, ce que voulait dire Clausewitz, c'est-à-dire que pendant la guerre elle-même, c'est le chef d'État qui conduit les armées, devient une vérité reconnue par tous.
C'était Raymond Aron sur TF1, dans une émission qui s'appelait Actualité dernière, en 1976. Jean-Vincent Olindre, dans les pas de Clausewitz, donc ce penseur de la chose militaire et de la stratégie du début du XIXe siècle, Raymond Aron nous dit là que tout est politique dans la guerre, je dirais chaque instant, et que d'une certaine façon, il faut être, lorsqu'on est le chef d'un État, présent à chaque étape, même dans la stratégie militaire la plus pointue. Vous êtes d'accord ?
Oui, c'est la description d'un phénomène qui est que la guerre est un affrontement entre des communautés politiques, entre des entités politiques, des collectifs. Et ça, c'est un élément déterminant de caractérisation de la guerre. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais la caractérisation de l'ennemi dépend de cette définition préalable de la guerre comme affrontement non pas... entre des humains de façon désordonnée, mais de façon ordonnée entre deux communautés politiques qui, d'une certaine manière, s'affrontent sans d'ailleurs nécessairement se déclarer la guerre, la déclaration de guerre étant ici relativement rare. Raymond Aron souligne un point essentiel qui est la rupture introduite par l'arme nucléaire. C'est-à-dire le fait que, depuis que l'arme nucléaire a été inventée, nous avons, les êtres humains, ce qui a une signification politique et morale considérable, la possibilité de détruire l'autre dans sa globalité.
Mais sans doute à ce moment-là, de se détruire soi-même.
Exactement.
Parce que l'autre a des alliances et le nucléaire sera voilà. utilisé en retour.
Donc cette vérité qui est que la guerre est un affrontement entre des communautés politiques prend en quelque sorte une coloration tragique dans le sens où l'arme nucléaire introduit, je dirais, une responsabilité supplémentaire sur les épaules du politique parce qu'en effet, c'est lui qui décide d'utiliser cette arme et c'est pas le militaire. Parce que précisément, le fait d'utiliser l'arme nucléaire, on le voit aujourd'hui à travers le conflit en Ukraine où cette menace nucléaire réapparaît de façon inquiétante, tout ça dépend au fond de la volonté politique de celui qui décide et qui a été désigné comme étant le chef, en l'espèce Vladimir Poutine en Russie, ou en France, le chef des armées, c'est le président de la République qui peut décider, le cas échéant, d'utiliser l'arme nucléaire, ce qui peut avoir des conséquences évidemment immenses. Donc c'est vrai qu'il y a une vérité, en quelque sorte intemporelle, du caractère politique de toute guerre, eu égard à la définition qu'on vient de donner, mais il y a une dimension particulière de la situation présente, dans la mesure où, moralement, notre responsabilité est d'autant plus grande qu'en tant qu'être humain, avec les technologies qui sont à notre disposition, nous avons la possibilité de nous détruire tous.
Un grand politique chef d'État, Julie Saada, vraiment, mettons la question nucléaire un peu de côté, sauf si vous souhaitez y revenir, doit être dans le détail de l'évolution d'une guerre, toujours en situation de décider. C'est normal, la guerre est intégralement politique, même dans ses détails.
Alors, ce qu'on appelle, enfin, ce que Aron, dans cet extrait, nomme politique, renvoie en réalité aussi à des éléments juridiques et moraux. Il est assez difficile de les départager. Lorsqu'il dit que le chef militaire est toujours subordonné au chef d'État, eh bien, ça renvoie finalement à une très longue tradition qui a fait de la guerre un conflit public. Hein, la guerre est publique, hein, c'est-à-dire qu'elle est une relation entre des États. Alors, même si historiquement, on a pensé d'autres formes de guerre, on y reviendra sans doute tout à l'heure, il place bien la guerre dans un contexte juridique, hein, comme une relation d'État à État, et donc quel est le chef de l'État ? Eh bien, c'est précisément celui qui prend les décisions de la guerre et dans la guerre. Et ce qu'il ajoute aussi, et ce que Jean-Vincent soulignait, hein, la question de la responsabilité liée au développement de certaines armes, et on pourrait ajouter aujourd'hui de certaines technologies, qui accroît la responsabilité de ceux qui décident de la guerre et dans la guerre, indique bien l'élément moral de la guerre. C'est-à-dire que dans la guerre, nous ne sommes jamais simplement face à un enchaînement de nécessités, hein, qui fait que la guerre serait un déploiement en quelque sorte mécanique de la violence, mais les responsables politiques, militaires, prennent des décisions dont ils doivent rendre compte. Voilà, parce qu'ils pourraient agir, ils peuvent agir d'une certaine façon, mais aussi d'une autre. Par conséquent, il y a une dimension fondamentalement morale, hein, au sens où elle implique la responsabilité de ceux qui décident des actions de la guerre et dans la guerre. Et par conséquent, ce que Raymond Aron entend par politique, eh bien, c'est à la fois des éléments qui sont juridiques et des éléments moraux. Et précisément, les doctrines de la guerre juste ont voulu mettre à jour cette dimension, disons, morale, pas au sens où la guerre est morale, mais au sens où la guerre a des enjeux moraux. Et pour évaluer les responsabilités, eh bien, nous avons besoin de définir un certain nombre de critères.
Et pourquoi vous dites moral, moraux, et non pas politique ?
Moraux au sens où les enjeux, par exemple, quand on parle de comme Jean-Vincent Olyndre le soulignait à l'instant, des responsabilités que l'on a d'utiliser telle ou telle arme. Alors, utiliser l'arme nucléaire va impliquer une responsabilité immense, puisqu'elle va aussi porter atteinte à des civils. C'est une arme qui ne discrimine pas les combattants et les non-combattants. C'est donc une arme prohibée, d'accord ? Eh bien, imaginons qu'un chef politique décide d'appuyer sur le bouton nucléaire, eh bien, il aurait une responsabilité, évidemment, qui serait au sens juridique, pénale, d'accord, y compris, on sait qu'aujourd'hui qu'un chef d'État a une responsabilité pénale internationale individuelle, hein, ce qui n'était pas le cas avant les procès de Nuremberg. Il a une responsabilité juridique et puis il a aussi une responsabilité morale, hein, en ce sens que les crimes commis lui seraient imputables.
Voilà. Moi, je me permettais juste de poser cette question de la politique par rapport à la morale, parce que quand on dit beaucoup morale, on a l'impression que politique, c'est sale, alors que dans politique, il y a aussi des considérations que parfois, quand on les trouve bonnes, on appelle morale. Par exemple, on a appuyé sur le bouton nucléaire, les États-Unis ont appuyé sur le bouton nucléaire à la fin de la, dans les dernières parties de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment qu'il y avait un problème moral, ça allait tuer beaucoup de monde, mais il y avait aussi un problème politique, ça allait peut-être sauver un certain nombre de vies. Et le dilemme et la question qu'on dit morale, en fait, elle est politique au sens large. La politique est une prise en compte de la question des vies de tout le monde aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, Jean-François Hollande, politique, c'est pas sale, quoi.
Bien sûr, la politique, c'est d'une certaine manière ce qui nous constitue, c'est notre être collectif, nous sommes citoyens, nous appartenons à des cités, à des états, nations, et tout ça est évidemment déterminant dans notre être, mais nous sommes aussi des êtres humains et des êtres moraux. Peut-être que de ce point de vue, à ce moment de la discussion, on peut faire une distinction entre trois grandes visions, au fond, qui confèrent une place différente à la relation entre politique et morale. Sur la guerre, le pacifisme, qui va considérer au fond d'une séparation nette entre la morale et la guerre. Aucune guerre n'est morale, aucune guerre n'est juste, aucune guerre au fond ne doit être justifiée en aucune façon. Pacifisme, disons, radical. Le réalisme, qui est plutôt l'école de pensée de Raymond Aron, même si c'est un auteur difficilement classable, qui va considérer au fond qu'il n'y a pas de guerre juste, véritablement au sens moral, mais surtout des guerres justifiées au plan politique, et qu'au fond la morale existe, bien entendu, elle existe dans le point de vue des êtres humains, dans les motifs d'action humaine, mais elle est subordonnée à la morale. Elle est subordonnée à des considérations politiques qui, d'une certaine manière, sont plus importantes. C'est l'idée de l'intérêt général de l'État ou de la raison d'État. Et puis, la troisième école de pensée, qui est celle de la théorie de la guerre juste, qui précisément, comme l'a déjà souligné Julie Saada, va essayer de trouver au fond une sorte de, non pas de compromis, mais d'articulation entre politique et morale, en disant qu'il y a certaines guerres qui peuvent être considérées comme justes, au regard d'un certain nombre de critères, dont on va sans doute parler, et puis d'autres qui ne sont pas justes. Par exemple, Michael Walzer, qui a beaucoup travaillé sur la guerre juste, explique que la guerre du Vietnam, c'était pas une guerre juste.
Oui, alors justement, j'aimerais qu'on l'écoute, Michael Walzer, parce que lui, il semble nous dire que le problème de la guerre juste, c'est tout simplement la nécessité d'avoir à justifier certaines choses. Et ça, on a toujours à le faire, y compris auprès de son opinion publique quand on est dans une démocratie.
No government in any high civilization.
Aucun gouvernement dans aucune civilisation élevée et dans de nombreuses civilisations inférieures, aucun gouvernement n'enverra de jeunes hommes au combat pour tuer et être tués sans donner une certaine justification pour ce qu'ils font. La théorie de la guerre juste est donc simplement un débat sur les justifications qui ont du sens, les justifications plausibles et la manière dont nous, citoyens, jugeons ce que font les gouvernements lorsqu'ils entrent en guerre. Les Grecs avaient des disputes sur le moment et la manière de se battre. Et il existe des récits bibliques de disputes sur le moment et la manière de se battre. Et dans la tradition islamique, il y a des disputes. La théorie de la guerre juste en tant que doctrine est issue de la théologie morale catholique du Moyen-Âge. Il s'agit donc d'un très vieux débat et qui dure toujours.
C'était le philosophe Michael Walzer, philosophe américain contemporain, toujours vivant, qui a écrit beaucoup de choses dans le domaine de la philosophie politique et qui a notamment, mais vraiment c'est au sein d'une œuvre plus large, écrit sur ce problème de la guerre juste. On peut écouter cela sur YouTube, c'était une intervention de 2011. Il a raison, Michael Walzer, selon vous, Julie Saada, de faire dégonfler un peu la baudruche qu'est ce mot « guerre juste ». Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Lui, en fait, dit, c'est juste le besoin de justifier et si j'ose dire, c'est juste le besoin de justifier. Et ça existe toujours, même chez le plus cynique des politiques, qui peut être sommé à un moment donné, vis-à-vis d'une opinion publique, de justifier.
Oui, mais alors là, je ferai une distinction, mais comme Michael Walzer fait, par ailleurs, il y a une différence entre, disons, ce que l'on a vu faire à un moment donné, par exemple par les États-Unis, hein, où il s'agissait de dire nous menons une guerre juste contre l'axe du mal, donc disons certains discours de la guerre juste qui ne visent qu'à justifier une entreprise qui pouvait difficilement l'être Voilà. Oui. Et ce que Michael Walzer fait, et toute la tradition à laquelle il se réfère, alors je nuancerai, je ne dirais pas la doctrine de la guerre juste, mais les, hein, puisqu'il y a des désaccords entre des théoriciens, donc il y a vraiment une pluralité, qui vise donc cet ensemble de, disons, de raisonnements, disons, moraux, d'accord, qui vise à la fois éventuellement à donner des justifications aux actions, mais aussi à définir un certain nombre de critères sur lesquels nous allons sans doute parler, mais qui ont aussi une fonction critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on définit un critère tel que, par exemple, le dernier recours, une guerre ne peut être juste que si elle constitue le dernier recours, c'est-à-dire que elle ne peut être juste que si l'ensemble des solutions de règlement pacifique des différends a été épuisé. Eh bien, ça peut servir aussi d'instrument critique face à l'usage ou aux justifications qu'en font les responsables politiques dans des discours, voilà, visant à légitimer leur action auprès de leur population. Donc, à la fois des éléments de justification, mais aussi des éléments critiques.
Eh bien, on va justement rentrer dans le détail. Je vous propose de respecter un peu l'histoire. Il y a ce moment de l'Antiquité où il y a quand même plusieurs types d'acteurs. Il y a des Grecs, il y a des Juifs. Ils n'ont pas la même vision de ce que peut être une guerre juste. L'impression qu'on peut avoir, c'est votre grande spécialité, Jean-Vincent Lind, puisque vous avez écrit sur la ruse et la force. Votre thèse qui a été publiée chez Perrin en 2017 parle beaucoup des Grecs. Et on a un peu l'impression que chez les Grecs, il n'y a pas vraiment d'interdit dans les moyens de la guerre. On a un peu l'impression que la ruse est toujours permise, articulée à la force. Y a-t-il des interdits ?
Déjà, la ruse est prise en mauvaise part par les Grecs, parce qu'elle n'est pas une manière valeureuse de combattre. Il faut toujours avoir à l'esprit que le modèle, alors c'est un idéal, c'est un modèle qui ne correspond pas nécessairement à la réalité, du soldat grec, si on prend le modèle athénien, c'est l'hoplite, c'est-à-dire le soldat de l'infanterie lourde. Hoplite, ça vient de hoplé, le bouclier, donc qui dispose d'un bouclier relativement lourd, et en fait, ce qui fait la force de l'hoplite, c'est sa vertu, c'est sa force intrinsèque et sa capacité à être en cohésion dans un groupe. Donc il n'y a pas du tout de ruse dans la manière hoplitique de faire la guerre.
Sauf qu'il y a Achille, la force, et voilà. Ulysse, la ruse, dans l'Iliade. Et ça, c'est quand même un couple extraordinaire.
Exactement. Et donc, au fond, l'hoplite, c'est une résurgence d'Achille, en quelque sorte, dans la cité grecque classique. Et Ulysse, l'homme doué de Métis, la ruse, intervient à travers un certain nombre de stratèges. Et à l'époque, par exemple, des guerres contre les Perses, c'est Thémistocle qui se distingue par une ruse de guerre consistant à attirer l'ennemi perse dans un piège, la baie de Salamine, c'est la fameuse bataille de Salamine, bataille navale, les batailles navales étant assez propices aux ruses de guerre. Et au fond, cette idée selon laquelle c'est la victoire, en quelque sorte, qui doit prendre le pas sur la vertu, c'est un élément grec évidemment important. Et donc, ce qui est intéressant chez les Grecs, c'est cette espèce d'ambivalence entre d'un côté ce modèle héroïque hérité d'Achille qui va mettre en avant le courage, l'honneur, la vertu, et puis de l'autre, l'idée que les cités se combattent avec l'objectif de vaincre. Et c'est un élément évidemment essentiel, en particulier lorsque les Grecs affrontent les Perses, et où c'est finalement la survie de la Grèce et des différentes cités grecques face à la menace, entre guillemets, barbare, qui est en jeu. Donc là, ça justifie l'usage de moyens qu'on aurait réprouvé dans les guerres rituelles entre Grecs. Et le fait d'ailleurs que l'ennemi ne soit pas grec est un élément qui va faciliter l'usage de la ruse, des moyens, entre guillemets, que les Romains qualifieront plus tard de perfides, contraire à la bonne foi.
Je suis contente que vous évoquiez les Romains tout de suite, qui font bien évidemment aussi partie de l'Antiquité. On a l'impression que chez eux, la ruse va quand même être connotée plus négativement. Oui. Évidemment, c'est notamment ce qui caractérise les grands ennemis méchants. Et le plus rusé d'entre eux, c'est sans doute Hannibal.
Ah oui. Alors, ce qui est intéressant avec les Romains, c'est qu'ils récupèrent en quelque sorte cet héritage grec de l'hoplitisme, d'une guerre vertueuse en face à face. Ils vont d'ailleurs beaucoup insister là-dessus. Si on lit Polybe, par exemple, on voit bien Polybe, c'est un grec acquis à la cause romaine qui va expliquer à quel point les Romains sont plus à la fois efficaces et valeureux que les Grecs. C'est quand même autre chose, les Romains.
Ils préfèrent la force, ils savent
voilà.
y faire.
Non, mais non seulement ils préfèrent la force, mais ils sont tout simplement à la fois meilleurs militairement et plus vertueux au plan politique. politique et morale, leur régime est tellement meilleur, le régime mix, etc. Donc c'est intéressant. Mais en fait, ce qu'on voit chez les Romains, c'est qu'il y a en fait un discours de justification précisément de l'usage de la force. Et en fait, les véritables origines de la doctrine de la guerre juste ou des doctrines de la guerre juste, c'est une origine romaine. Michael Walzer, dans l'extrait qu'on a entendu, met l'accent sur les origines chrétiennes, qui sont évidemment décisives avec Augustin et Thomas d'Aquin. Mais la véritable origine, enfin la première trace, en quelque sorte, des différents critères de la guerre juste, c'est le deuxième siècle avant notre ère, avec Polybe, et puis plus encore avec Cicéron, et avec l'idée que finalement, ce combat contre Carthage, contre Hannibal, est un combat dans lequel les Romains cherchent à apparaître comme étant les plus vertueux. Donc en fait, ce discours de la guerre juste, c'est un discours à l'époque des Romains éminemment politique.
Mais moralisateur, mais politique.
Voilà, et où le droit, d'une certaine manière, est une façon d'asseoir un projet politique impérial.
Ils ont quand même gagné, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens qui ne se sont pas forcément approchés de près du personnage historique de Hannibal, Julie Sada, il est vraiment le méchant, quoi. Alors qu'en fait, Hannibal, c'est un extraordinaire stratège. Il a réussi à... Il choisissait terriblement bien ses lieux géographiques de combat. Les Romains pensaient l'affronter plus près de l'Espagne. Il va traverser les Alpes, il va les affronter chez eux. Il crée une surprise permanente, notamment sur le terrain d'affrontement. Mais Hannibal... Je crois qu'à part Édouard Philippe, qui a toujours dit qu'il l'adorait, aujourd'hui, n'est pas une figure qu'on aime avancer. Elle paraît très immorale. C'est un peu exagéré, c'est surtout un immense stratège.
C'est-à-dire que là, on s'intéresse pas. Enfin, lorsqu'on avance ce type de figure, comment gagner la guerre et tous les moyens sont permis, non pas seulement la force, mais aussi la ruse. Donc, qui est évidemment une forme d'intelligence. Voilà, et qui peut avoir une finalité tout à fait louable, hein, défendre l'intérêt d'un État, c'est-à-dire aussi protéger sa population, etc. Mais on a, disons aujourd'hui, une façon de penser, ce qui peut constituer la justice de la guerre et dans la guerre, hein, c'est-à-dire la question des bonnes raisons ou des mauvaises raisons de décider de la guerre et surtout de la façon de la mener, puisque là il s'agit plutôt du droit dans la guerre, hein, c'est-à-dire quels moyens pouvons-nous utiliser, jusqu'où pouvons-nous pousser les ruses sans qu'il y ait, disons, quelque chose de foncièrement immoral.
Perfide,
voilà, la perfidie fait partie des choses qui ne sont pas ni moralement ni juridiquement autorisé, eh bien on n'est plus dans ces catégories-là, c'est-à-dire qu'il devient difficile de justifier des actions qui, certes, pourraient protéger l'intérêt d'un État et de sa population, mais qui se ferait, par exemple, sans aucun principe de proportionnalité à l'égard de l'ennemi, voilà, et à l'égard des victimes que l'on peut causer. Donc, nous avons des catégories morales et juridiques aujourd'hui qui sont différentes.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de la proportionnalité, parce que, certes, à partir du monde romain, il va y avoir une ligne chrétienne qui va vraiment penser la guerre juste, on va en parler, vous allez nous expliquer, Augustin d'Hippone, puis Thomas d'Aquin, mais il y a aussi l'héritage hébraïque, juif, dans la ligne chrétienne, il n'y a pas que l'héritage romain, et dans l'héritage juif, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui finalement exprime un souci de proportionnalité. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est difficile de savoir quel est l'œil et quelle est la dent qui correspond à l'œil et à la dent perdue. Donc en fait, chaque fois qu'on met une norme, le problème c'est de juger à partir d'elle. Donc on ne résout rien. C'est très difficile d'évaluer si on est fidèle ou infidèle, par exemple à la loi du talion.
Oui, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. La loi du talion ne décrit pas ou ne préconise pas un cycle de vengeance illimité. Au contraire, elle établit une proportion entre le dommage subi et, disons, la forme de réparation ou de punition que l'on va infliger. Donc, c'est un principe, de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, il apparaît à la fois... Enfin, la question se pose à la fois dans les raisons ou pas d'entrer en guerre, donc dans les critères de justification de la guerre, et il apparaît aussi dans la façon dont on mène la guerre, c'est-à-dire au fond, est-ce que utiliser tel ou tel moyen en vue d'un gain militaire peut être justifié au regard des pertes possibles et au regard des destructions que l'on peut causer à l'ennemi, par exemple sur sa population civile. Alors le principe de proportionnalité, il est formulé à la fois, disons, dans des catégories morales, il existe en droit, mais on n'a jamais la liste de ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire que c'est interprétatif. D'accord ? Il faut à chaque fois juger, parce que le droit ne peut pas définir l'ensemble des situations à venir et fournir voilà, une liste complètement close, à la fois de critères qui pourraient s'appliquer à l'ensemble des situations. C'est un des critères les plus difficiles à appliquer.
Alors on va revenir à l'héritage hébraïque, dans la pensée chrétienne aussi, voire dans ses différences avec la pensée chrétienne. Comme à la fois Augustin et Thomas ont théorisé un peu la guerre juste, je vous propose un texte de Thomas d'Aquin qui évoque Augustin. Souvent, ils ne sont pas d'accord ces deux-là, mais alors, sur la guerre juste, j'ai l'impression qu'ils sont fondamentalement d'accord. Enfin, vous m'expliquerez.
Pour qu'une guerre soit juste, trois conditions sont requises. Premièrement, il faut l'autorité du prince, sur l'ordre de qui on doit faire la guerre. Il n'est pas du ressort d'une personne privée d'engager une guerre. Le fait de convoquer la multitude, nécessaire pour la guerre, n'appartient pas à une personne privée. Puisque le soin des affaires publiques a été confié au prince, c'est à eux qu'il appartient de veiller au bien public de la cité, du royaume ou de la province soumis à leur autorité. Deuxièmement, il faut une cause juste. Il est requis que l'on attaque l'ennemi en raison de quelques fautes. C'est pour cela que saint Augustin a écrit « On a coutume de définir guerre juste celles qui punissent des injustices quand il y a lieu, par exemple de châtier un peuple ou une cité qui a négligé de punir un tort commis par les siens, ou de restituer ce qui a été enlevé par violence. » Troisièmement, il faut une intention droite chez ceux qui font la guerre. On doit se proposer de promouvoir le bien ou d'éviter le mal. C'est pour cela que saint Augustin écrit « Chez les vrais adorateurs de Dieu, les guerres même sont pacifiques, car elles ne sont pas faites par cupidité ou par cruauté, mais dans un souci de paix, pour réprimer les méchants et secourir les bons. » En effet, même si l'autorité de celui qui déclare la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive néanmoins que la guerre soit rendue illicite par le fait d'une intention mauvaise. Saint Augustin écrit en effet « Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, la violence et l'inflexibilité de l'esprit, la sauvagerie dans le combat, la passion de dominer et autres choses semblables, voilà ce qui dans les guerres est jugé coupable par le droit. »
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
C'était un texte de Thomas d'Aquin du XIIIe siècle, faisant référence à Augustin d'Hippone du IVe siècle de notre ère. Et vous entendiez cette lecture de la Somme théologique de Thomas d'Aquin par Nicolas Berger de notre équipe. Bon, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le souci chrétien de créer des critères. C'est que quand même, il existe une chose qui s'appelle l'Épître aux Romains de Paul, qui dit explicitement en son chapitre 13 que quoi que fasse une autorité temporelle, c'est-à-dire politique, on lui devra une obéissance absolue, inconditionnelle, même si l'autorité temporelle est impie. Donc il y a quand même une ligne dans le christianisme, et elle n'est pas sans rapport avec certaines choses du judaïsme, qui dit, en fait, tout est possible, mais on n'a pas à juger ce qui se passe entre les autorités temporelles. C'est Dieu qui le veut, il a ses raisons. Donc comment, à partir de ce legs, peut-on construire des critères de comportement, par exemple dans les guerres, dans tous les types d'affrontements qui concernent les autorités temporelles? Je suis toujours un peu étonnée. Alors, qui veut me répondre? Sulissana, allez-y.
Alors, c'est en effet tout à fait pertinent de citer l'Épître aux Romains, qui commande d'obéir au supérieur, d'obéir au chef politique. Pourquoi ? Eh bien, parce que le problème qui se posait, aux premiers chrétiens, c'était celui de savoir si l'on pouvait faire la guerre, alors même que Dieu, ou dans la Bible en tout cas, a interdit de tuer. D'accord ? Donc, comment pouvons-nous faire la guerre comment pouvons-nous participer à la guerre dès lors qu'il est interdit de tuer ? La guerre étant évidemment le fait de tuer. Et précisément, ce qu'utilisent des auteurs comme par exemple Augustin, c'est cet épître aux Romains hein, qui dit qu'il faut obéir au chef politique, obéissez au supérieur politique. Et donc si ce dernier décide de la guerre, son ordre doit être considéré comme absolu parce qu'en effet son autorité n'est autre que finalement la volonté divine.
Établie par Dieu, voilà. Dit le texte.
Et donc obéir au prince, c'est obéir à Dieu. Et
à partir de là... Mais ce prince peut faire ce qu'il veut, c'est Dieu qui l'a établi. Donc on se dit qu'au fond, son comportement... Il y a quelque chose qui le dépasse, hein, à savoir l'établissement par Dieu, qui va se jouer dans ses actes. Et puis voilà, comment peut-on vraiment l'aider à savoir quelle est la bonne guerre, la juste guerre ?
Alors, en tout cas pour les sujets, disons, il n'y a pas à l'aider, il y a à obtempérer.
Oui, ça c'est vrai.
Mais Augustin, donc pour revenir à Augustin qui est cité là par Thomas d'Aquin, Augustin est en effet considéré comme l'un des premiers à formuler, disons, les critères qui ensuite ont été repris dans ce qu'on appelle les doctrines de la guerre juste, tels que Thomas d'Aquin les mentionne. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, par exemple, enfin, c'est le fait qu'il n'existe pas chez Augustin, disons, une doctrine comme tel. C'est-à-dire que lorsqu'Augustin formule les critères que Thomas d'Aquin mentionne, il le fait dans la Cité de Dieu et il le fait dans des lettres, par exemple lettre à Boniface. Et dans la Cité de Dieu, il a un concept de guerre qui est extrêmement général. C'est-à-dire que la guerre décrit finalement l'existence humaine terrestre qui est caractérisée par le vice, par l'injustice et qui est opposée à la Cité de Dieu qui, elle, est une cité céleste où règne la justice. Et donc, il en vient à définir des critères de la guerre pour ce qui concerne la cité terrestre, d'accord. Mais ce qui intéresse Augustin, au fond, ce sont des enjeux théologiques. On n'a pas, disons, une doctrine juridique de la guerre.
Donc c'est quand
spécifique.
Même assez lâche, si je puis dire.
Voilà.
Jean-Vincent Hollin.
Il faut rappeler qu'avant Augustin, au fond, les chrétiens étaient pour l'essentiel marqué par un pacifisme radical. Et au fond, la question que pose Augustin est une question certes théologique, mais aussi politique, puisqu'elle intervient au moment où les chrétiens, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. C'est fondamental. C'est-à-dire comment des chrétiens peuvent en effet participer à un effort de guerre, alors même que le message chrétien universaliste est un message de paix où finalement la question de la guerre, c'est essentiellement la question de la guerre contre le mal, et que c'est pas une question politique. Donc en fait, Augustin va quand même jusqu'à un certain point, même si c'est ambivalent, effectivement, selon les œuvres, politiser cette question de la guerre parce que d'une certaine façon, les chrétiens sont insérés dans...
Ils en ont besoin.
Voilà, ils sont insérés dans un problème politique.
L'épître aux Romains tout seul.
Et alors, ce qui est très intéressant, vous évoquiez tout à l'heure la Bible hébraïque, où la question de la guerre est centrale, notamment dans la partie sur les conquêtes donc de territoire d'Israël par Josué. Et en fait, le point fondamental que va reprendre d'ailleurs saint Augustin, c'est cette idée du commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait.
Et du signe que peut envoyer Dieu. C'est très important ça, parce qu'on ne sait pas toujours.
Et et le commandement, au fond, le stratège dans les guerres de Josué, c'est Yahvé, c'est Dieu lui-même qui donne un certain nombre de commandements. Et donc on retrouve en fait ce critère retravaillé en quelque sorte dans le texte que nous avons entendu sur l'idée de l'autorité publique, en fait d'une autorité qui va en quelque sorte commander le fait d'utiliser la force. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir qu'Augustin va combiner différentes sources, évidemment des sources chrétiennes, mais aussi des sources juives et des sources romaines. Puisque les Romains s'étaient déjà posé cette question de la justification et de l'autorité légitime devant agir. Donc, on a ici trois critères fondamentaux de la théorie de la guerre juste, même si les choses sont discutées. En tout cas, la question de l'autorité légitime, c'est le premier critère évoqué dans le texte. Ensuite, la question de la cause juste. Cette idée, au fond, selon laquelle, ça c'est fondamental, la guerre juste est une réponse. Par exemple, une réponse à une agression. C'est jamais la guerre est juste à partir du moment où elle correspond. Elle consiste à réparer, le texte nous dit, une faute. Donc ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de guerre juste, au fond, qui est en première intention, d'une certaine manière. Et puis le troisième critère, c'est peut-être le plus compliqué, ambivalent, l'intention droite, qui renvoie aux passions. qui renvoie finalement aux sentiments et aux passions, aux émotions qui peuvent animer celui qui fait la guerre. Et la cruauté, la vengeance, etc. Et cette idée que finalement, ce qui peut brouiller en quelque sorte les choses et le jugement, aussi bien d'ailleurs politique que moral, c'est le fait d'être en quelque sorte envahi par les passions. On le voit bien aujourd'hui, ces questions liées à la vengeance, aux passions qui vous dévorent, c'est un élément essentiel, je dirais, de la réflexion actuelle sur la guerre et que met en avant Thomas d'Aquin, faisant référence ici à Augustin. Aujourd'hui, l'intention de droite, c'est un critère qui fait pas nécessairement partie des cinq critères de la théorie de la guerre juste, précisément parce que ça renvoie à des choses qui sont difficilement objectivables, en quelque sorte. C'est quoi une intention droite ? Lorsqu'on est chrétien, ça renvoie au commandement de Dieu et aux Écritures. Mais enfin, on peut aussi considérer qu'il y a d'autres références que ces références-là.
En tout cas, voilà. Ce qu'on entend, là, c'est qu'il y a un besoin d'encadrer la guerre et d'avoir des normes de comportement. On ne peut pas juste attendre que Dieu nous envoie un commandement ou un signe, ce qui, quand même, ouais, est l'essentiel de ce qu'on trouve dans la Bible hébraïque. Parfois, la guerre défensive elle-même n'est pas bonne. Dans le livre de Jérémie, Jérémie prophète dit aux Hébreux qui ont été déplacés et violentés par Nabucodonosor, vous ne vous défendez pas, vous restez là où vous êtes, n'écoutez pas les faux prophètes qui vous disent de vous venger. Et puis dans d'autres livres, comme celui des Maccabées, là, pour le coup, les Maccabées reçoivent un signe de Dieu qu'ils ont le droit de se défendre contre Antiochus. Donc on peut pas attendre des signes de Dieu. Et c'est peut-être ça qui est très important, c'est qu'il faut que les humains définissent des critères fermes, politiques, et au-delà de ce que Dieu peut raconter, et comme souvent il se tait, c'est absolument nécessaire de se passer de lui au quotidien.
Oui, ce qui nous permet de comprendre...
Julie Saada.
Ce qui nous permet de comprendre, à travers, disons, l'élaboration qui se fait de façon assez progressive, des critères de la guerre juste ou des critères dans la guerre, c'est qu'en fait, les théories de la guerre juste visent avant tout à limiter les violences. Alors certes, elles vont en légitimer certaines, mais on voit bien que le principe est restrictif. C'est ce qui fait que les théories de la guerre juste se superpose partiellement, évidemment, avec certains arguments du pacifisme. Pas le pacifisme radical ou absolu dont parlait Jean-Vincent tout à l'heure, mais l'idée qu'il faut limiter les raisons de faire la guerre à des raisons, disons, absolument indispensables. Alors quand Thomas d'Aquin quand Thomas d'Aquin énonce ces trois critères, le premier critère, le fait que la guerre doit être faite en vertu d'un commandement donné par celui qui possède l'autorité civile, elle doit être déclarée par l'autorité légitime, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la seule guerre légitime devient la guerre publique. Donc, on va exclure les guerres privées, on va exclure les guerres mixtes. Lorsqu'il affirme que la guerre doit être faite en vertu d'une juste cause, c'est-à-dire en réponse à une faute commise par un autre État qui a violé, disons, alors je parle de façon un peu anachronique, mais le droit subjectif, mon droit subjectif, par exemple, eh bien, ça indique que la guerre vise à rétablir le droit lorsqu'il a été violé, que son modèle est celui de la légitime défense, d'accord ? Et là, ça exclut tout un tas de causes de guerre. Par exemple, la guerre de conquête est exclue, d'accord ? La guerre de religion est exclue. Alors ça, on verra peut-être chez d'autres auteurs comme Vittoria, elle est réintroduite par d'autres moyens. Voilà. Et puis, sur la question de l'intention droite, certes, il y a tout ce flou et le fait que ce n'est plus un critère qui est aujourd'hui, disons, est significatif, mais l'intention droite ne signifie pas autre chose que le but de la guerre, c'est la paix. Voilà. Et donc, qu'il ne faut pas utiliser dans la guerre des moyens qui rendraient la paix impossible. Donc, c'est tout de même un critère qui a été historiquement important.
Bon. Encore faut-il le respecter. Et puis, il va y avoir un autre problème à un moment donné, c'est que les chrétiens entre eux vont se faire la guerre, les guerres de religion, dont il reste évidemment plein de choses encore au XVIIe siècle, puisque de 1618 à 1648, la guerre de 30 ans porte encore les traces des guerres de religion du siècle d'avant. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et Grotius est un personnage très important, un penseur de cette époque, qui essaye d'exhiber de nouveaux critères, puisqu'après tout, toutes les parties sont souvent chrétiennes, et c'est qu'on n'a peut-être pas assez de critères, la guerre est toujours là dans son horreur. Écoutez, le droit de la guerre et de la paix, un extrait donc d'Hugo Grotius, 1625.
Parmi les principes naturels primitifs, il n'en est pas un qui soit contraire à la guerre. Bien plus, ils lui sont tous plutôt favorables, car le but de la guerre étant d'assurer la conservation de sa vie et de son corps, de conserver ou d'acquérir les choses utiles à l'existence, ce but est en parfaite harmonie avec les principes premiers de la nature. Que s'il est besoin d'employer la violence en vue de ses résultats, cela n'a rien d'opposé à ces principes primitifs, puisque la nature a doté chaque animal de forces physiques qui puissent lui suffire pour se défendre et se procurer ce dont il a besoin. Ce n'est donc pas agir contre la nature de la société que de veiller et de pourvoir à ses propres intérêts, à la condition que le droit d'autrui n'en reçoive aucune atteinte. Et par conséquent, l'emploi de la force, lorsqu'il ne viole pas le droit des autres, n'est pas injuste. Cicéron a formulé ainsi cette pensée. Comme il y a deux manières de vider un différend, l'une par un échange d'arguments, l'autre par les voies de fait, et comme celle-là est particulière à l'homme, celle-ci au brute, il faut ne recourir à la seconde que lorsqu'on ne peut faire usage de la première. Le même auteur dit dans un autre endroit « Que peut-on faire contre la force sans la force ?»
Pourquoi ça ne suffisait pas, Augustin et Thomas d'Aquin? Qu'est-ce que Grotius apporte? Quel est son problème? Quel est l'enjeu de l'œuvre de Grotius au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle.
Si on se situe du point de vue du contexte historique, on peut dire que la guerre de 30 ans que vous avez évoquée, 1618-1648, c'est à la fois la dernière des guerres de religion et c'est la première des guerres pour la souveraineté, guerre interétatique, qui renvoie à la limitation de la guerre par la politique, en quelque sorte, au sens fort du terme, et qui essaie, en quelque sorte, de régler un certain nombre de problèmes théologico-politiques par le politique. Et par l'idée que, finalement, ce qui va permettre, en quelque sorte, de réguler la violence, c'est la reconnaissance des États dans la guerre comme dans la paix, avec un encadrement, au fond, de la guerre. Et ça, c'est un élément fondamental de la théorie de Grotius. Outre la dimension de juridicisation de questionnements qui étaient jusque-là pour l'essentiel théologiques. Grotius est l'héritier de ces questionnements théologiques, il ne cesse de citer toutes ces références anciennes, notamment chrétiennes, mais au fond il a un point de vue qui est celui du droit de la guerre qui est en formation dans ce contexte politique que nous avons indiqué. Et l'idée fondamentale, aller vite ici, c'est l'idée que la seule véritable guerre juste, c'est la guerre défensive. La seule manière de limiter, au fond, la violence, pardonnez-moi, je vais assez vite, mais c'est essentiel.
C'est très important, d'autant qu'on vient justement de dire que pour certains legs antérieurs, le leg juif, mais leg chrétien, la question est posée, mais c'est pas toujours, même parfois, il faut pas se défendre. Enfin, c'était très ambigu.
Il y a une ambivalence,
alors
évidemment.
Alors que là, maintenant, ça devient clair.
Il y a une
clair.
Ambivalence, puisque, évidemment, le christianisme est non seulement marqué par cette ambivalence entre pacifisme radical et puis participation à la guerre, mais aussi l'idée, au fond, d'un message chrétien à universel à diffuser, y compris peut-être par la force. Et donc, alors que dans le cas de Grotius, l'enjeu, c'est celui, aussi bien du point de vue, je dirais, de l'entrée en guerre que des manières de la faire, d'une limitation de la guerre. Et quand il évoque l'idée qu'au fond, la guerre est, entre guillemets, naturelle parce qu'il s'agit de conserver sa vie, etc., ça renvoie à cette idée-là. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, la guerre comme problème public, comme relation publique, c'est une relation entre des communautés politiques et qu'au fond, la seule véritable guerre juste, c'est la guerre consistant à répondre à une agression.
Où nous retrouvons notre problème de la proportionnalité, Julie Saada. Et justement, est-ce que Grotius veut codifier tout cela? Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ça l'enjeu majeur, la ligne fondamentale, c'est la question de la guerre défensive?
Oui, tout à fait. Dans un contexte que décrivait, que Jean-Vincent Olyndre évoquait à l'instant, et que Grotius décrit lui-même dans les prolégomènes du droit de la guerre et de la paix, donc un petit peu avant le passage qui vient d'être lu, où Grotius, au fond, évoque une position qui devient peut-être classique à son époque, face aux guerres de religion entre catholiques et protestants, donc qui sont à la fois des conflits civils, des guerres transnationales, et des guerres d'État à État. Donc on a affaire à un déchaînement de violence partout à travers l'Europe, et se trouve formuler cette objection qui est que la guerre ne peut pas être contenue par le droit, ne peut pas être limitée. Voilà, elle est un pur déchaînement de violence, et nous ne disposons pas de critères de justice sur lesquels tous les États pourraient se mettre d'accord. Donc là, on trouve chez Grotius, disons, une reviviscence d'un argument sceptique. Hein. Il oui. mentionne lui-même Carnéade dans les Prolégomènes.
Carnéade de la Nouvelle Académie, voilà. Un grand penseur sceptique.
Voilà. Et le but de Grotius, c'est finalement de répondre à cette objection selon laquelle on ne peut pas limiter la guerre parce qu'il n'existe pas de critères juridiques ou de critères de justice sur lesquels les différents États ou les membres de l'ensemble des communautés politiques pourraient se mettre d'accord. Comment est-ce qu'il le fait? Eh bien, dans le passage mentionné, il le fait à partir du droit naturel et à partir, en effet, du droit qu'a tout être de se défendre, hein, de se maintenir en vie et donc, de se défendre en vue de conserver sa vie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'analogie. Alors, on traduit par un anglicisme l'analogie domestique. Bon, donc, ça veut dire que tout un tas de penseurs, dont Grotius, considèrent que de même qu'un individu a le droit de se défendre naturellement, mm-hmm. hein, pour rester en vie, eh bien, un État qui pourtant est une réalité artificielle, eh bien un État dispose de ce droit naturel de se préserver et donc aussi de protéger sa population. Et donc, le droit de se défendre, qui va constituer le principe premier du droit de la guerre, il est fondé, là, dans du droit naturel.
Mais il ne parle plus de guerre juste, il parle juste de guerre correcte par rapport à une conception, quand on dit le droit naturel, il faut un peu expliquer de la nature de ce que sont les humains, c'est ça. Il y a quand même quelques règles, mais c'est pas la guerre juste, c'est pas, il ne va pas jusque là.
Voilà, c'est-à-dire qu'il rompt avec, la tradition qui le précède, hein, des doctrines de la guerre juste qui sont des doctrines chrétiennes, des doctrines catholiques, faut pas oublier qu'il est protestant, d'accord? Et en effet, la guerre est défensive, elle n'est pas vindicative, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juger celui qui a commis un tort. Ce qui était le cas auparavant, ce qui était le cas chez Vittoria, par exemple. Hein, la guerre, c'est aussi un acte de justice, au sens où celui qui a reçu, qui a été offensé, en quelque sorte, qui a reçu un tort, eh bien, celui-là peut se faire le juge de celui qui a commis une injustice.
Mais attendez, là on
chez Vittoria,
au dernier...
c'est le cas. Oui, ce n'est plus le cas chez Grotius.
Et on n'aura pas le temps de parler de Rousseau qui ajoute par rapport à Grotius, merci de nous l'avoir beaucoup expliqué en amont de cette émission, le respect des ce qu'on appelle aujourd'hui les populations civiles. Mais c'est quand même toujours le même problème moderne. Qui va juger d'une transgression? Est-ce que les deux parties sont suffisamment mûres pour s'accorder sur le code et pour s'accorder sur le juge qui pourrait être désigné? Bien sûr que non. Enfin, je sais pas. Mais
c'est tout le problème des relations internationales. C'est-à-dire qu'il y a, depuis Grotius, eu beaucoup d'évolutions et notamment un approfondissement, évidemment, du droit international, notamment en matière de justice pénale internationale, par exemple, sur les 20 dernières années, des évolutions fondamentales. Mais ce qui prévaut tout de même, et les conflits actuels au Soudan, à Gaza, en Ukraine le montrent, ce que Raymond Aron appelle l'imperfection essentielle du droit international, il est sans doute un peu sévère dans son jugement politique, mais ce qui prévaut en relations internationales, c'est ce principe d'anarchie au sens strict, c'est-à-dire d'absence d'ordre international permettant au fond uniformément d'appliquer un certain nombre de principes universels permettant de préserver la paix. Et ce qui est vrai jusqu'à un certain point d'ailleurs à l'intérieur de nos États-nations ne l'est plus à l'échelle internationale et la seule chose qui peut au fond limiter cette violence internationale outre le droit de la guerre, le droit international dans sa dimension parfaite, c'est la prudence des responsables politiques. On revient en quelque sorte...
aux vertus des anciens.
À ce que disait Raymond Aron au début de l'émission et d'une certaine manière ce que nous dit Rousseau lorsqu'il explique que la guerre n'est pas un affrontement d'homme à homme et d'État à État, il veut dire au fond qu'il faut être très attentif à la dimension politique de la guerre, mais au fait que cet affrontement ne doit pas être absolu. C'est pas parce qu'on a un ennemi public que cet ennemi est un ennemi radical qu'il faut en quelque sorte détruire comme être humain. ce qu'il faut détruire, nous dit Rousseau, c'est l'État, en quelque sorte, pour une victoire. Mais ce n'est pas une destruction au sens humain du terme. Ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on voit bien que dans les conflits dont on parle, qu'on a brièvement évoqué, le problème est là. C'est-à-dire qu'au fond, l'ennemi n'est pas seulement un ennemi public qu'il s'agirait de vaincre, mais il s'agit ni plus ni moins, en vertu de passions comme la vengeance, de détruire l'autre homme, l'autre humain.
Qui juge finalement ? Je sais bien qu'il y a plein d'institutions internationales, mais au fond, est-ce que ce n'est pas au présent l'opinion publique, surtout dans notre société très, où tout circule ? Et puis, plus tard, ça les Grecs le savaient bien, l'histoire. Et peut-être que c'est ça que quand même certains chefs d'État ont en tête. Le présent de l'opinion publique et le futur, où mine de rien, ils seront jugés. Julie Saada.
De facto, c'est certainement vrai. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut s'en contenter ? Je ne le pense pas. Ça me semble, ça ne donne pas, des moyens d'agir dans le présent. Ça ne donne pas la possibilité, par exemple, de sanctionner un chef d'État qui aurait autorisé ou même été l'auteur d'un massacre de civils. Peut-être un élément important à souligner, c'est que les doctrines de la guerre juste sont des doctrines d'origine, disons, théologiques, religieuses, qui se sont en quelque sorte laïcisées, qui recouvrent aujourd'hui des débats éthiques, mais on dispose d'un droit international des conflits armés, d'un droit humanitaire, d'institutions pénales internationales qui reconnaissent, qui affirment la responsabilité individuelle sur la scène internationale, enfin la responsabilité pénale, y compris lorsqu'il s'agit d'un chef d'État. Alors on peut peut-être déplorer la faiblesse de ces institutions, mais qui sont très récentes. C'est-à-dire qu'il est difficile de les condamner par principe, parce qu'elles seraient faibles. Elles sont récentes. On a encore ce qui prédomine en droit international, eh bien, un principe de souveraineté. D'accord ? Et par conséquent, c'est en quelque sorte une...
Souveraineté des États.
De souveraineté des États, bien sûr. Il est pour l'instant assez difficile, en effet, de faire fonctionner, peut-être comme on le souhaiterait, ces institutions internationales, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, d'autres types de juridictions sont possibles en droit international. Cela signifie-t-il qu'il faille y renoncer ou qu'il faille se contenter du jugement plus tardif de l'histoire ou de l'opinion publique ? On voit bien que l'opinion publique elle-même pense en termes de catégories juridiques, pense aussi à travers ce qui est considéré...
Qu'elle n'utilise pas toujours bien d'ailleurs.
Pas toujours bien, ça c'est certain. Ouais. Ça c'est certain. Absolument. Qu'elle
manipule. Notamment le mot
aussi,
génocide est devenu utilisé absolument tout le temps.
Et les politiques aussi, c'est-à-dire qu'il y a des usages stratégiques et politiques des catégories juridiques.
Un dernier tout petit mot.
Non, mais oui, vous avez raison de noter cet usage stratégique du terme de génocide. C'est-à-dire un terme qui, à un moment donné, intervient dans le droit pour qualifier juridiquement une situation et où on voit que les États vont être amenés à l'utiliser, à utiliser même le droit, les instances internationales juridiques à des fins politiques. Ça, c'est un élément important. Oui, le droit a progressé, mais la politique peut aussi utiliser le droit à des fins stratégiques.
Marquez les pas, un, deux, anciens combattants, on a sauqué les. Marquez les pas, et un, deux, anciens combattants, on a sauqué les. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Peter mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand. J'ai tué Angélais, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'a qu'elle pas. Et un, deux, ancien combattant, on a sauqué, m'a qu'elle pas. Et un, deux, ancien combattant, on a sauqué. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas Michangi, mon cher Eho, y'a cadavre. Avec le coup de matraque, tout ta coupe ta tra, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants cadavre. Les rois cadavre. Les reines cadavre. les empereurs cadavres, tous les présidents cadavres, les ministres cadavres, les gardes-corps cadavres, les montagnards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres.
Eh bien, vous entendez Zao, qui est un chanteur congolais qui a repris la chanson d'un musicien malien, Idrissa Soumaoro, qui s'appelait avant Petit Imprudent et qui, avec Zao, s'appelle Ancien Combattant. Et il chante cela en 1984. Je vous remercie beaucoup pour la vitalité polémique, mais pas guerrière, que vous avez exprimée ce matin, Julie Saada et Jean-Vincent Olindre. Merci vraiment. Les références de vos travaux sont sur notre site. Et voici maintenant le pourquoi du comment, la chronique de Frédéric Worms, qui nous parle de l'événement cette semaine.
Comment commémorer le tragique? On appelle événement tout ce qui, d'une certaine façon, franchit un seuil à un moment donné. Et la marque de l'événement dans les vies humaines, dans les vies individuelles et collectives, c'est que, précisément pour marquer le franchissement de ce seuil dans un calendrier, nous l'inscrivons à une date que nous marquons et que nous célébrons de manière régulière. C'est pourquoi l'anniversaire est inséparable de l'événement et que, d'une certaine façon, on peut appeler événement dans la vie humaine ce dont nous marquons l'anniversaire d'une manière ou d'une autre, quel que soient les calendriers, quelles que soient sans doute les cultures ou les civilisations, comme il s'agit des naissances ou des morts. Mais il faut reconnaître que dans le calendrier collectif et mondial récent, depuis le début du XXe siècle, ce sont surtout des anniversaires tragiques qui ont marqué la mémoire collective. Il y a eu, certes, à la fin du XXe siècle, encore des anniversaires positifs qui pouvaient d'ailleurs en rappeler d'autres, comme la chute du mur de Berlin en 1989 pouvait se relier à l'anniversaire d'une émancipation, celle de 1789, 200 ans plus tôt, et c'est un double anniversaire historique joyeux dans la mémoire de la fin du XXe siècle, en tout cas en Europe et en France. Mais depuis le début du XXIe siècle, depuis le 11 septembre 2001 jusqu'au 7 octobre 2023, en passant par le 11 janvier, par le 15 novembre en France, par la mémoire de ces attentats, toutes ces dates s'inscrivent et ailleurs aussi avec des lettres tragiques dans l'écran de nos histoires, dans la mémoire de chacun et dans la mémoire collective. Il y a cependant une responsabilité majeure à l'égard de la mémoire de l'événement. C'est que l'anniversaire de l'événement, la mémoire de l'événement ne reproduise pas, n'aggrave pas encore sa déchirure tragique sans pour autant la minimiser. Comment reconnaître le tragique de l'événement, ce qui a fait sa négativité profonde, qu'il a détruit certaines vies et surtout qu'il a marqué une rupture, peut-être difficile à inverser, peut-être quasi irréversible, une rupture irréversible entre certains peuples et entre certains actes, comme le commencement d'une guerre, comme un attentat terroriste, comme une attaque qui a été suivie d'autres et qui a enclenché plutôt un cycle tragique qu'il n'en a interrompu. Comme on célèbre les armistices, on commémore malheureusement le tragique d'une manière inverse. Entre le 11 novembre et le 8 mai en Europe, il y a désormais ces dates qui marquent des ruptures. Comment allons-nous les dépasser, encore une fois, du 11 septembre en 2001 au 7 octobre aujourd'hui? La commémoration du tragique ne peut chercher à réparer la rupture qu'il a marqué qu'en la reconnaissant. En reconnaissant d'abord les actes destructeurs de ces événements tragiques qui sont forcément dissymétriques des uns à l'égard des autres, et en reconnaissant ensuite qu'il faut en chercher l'explication, qu'il faut chercher non pas à les dépasser, à les abolir, mais non seulement à les comprendre non plus, mais à construire un cadre pour qu'il ne soit plus possible, pour que la rupture qui a eu lieu dans ces événements oblige au fond, à construire le cadre pour qu'il ne se reproduise pas. Ainsi, commémorer des dates comme celle du 11 septembre ou du 7 octobre, c'est toujours essayer de faire en sorte qu'ils s'inscrivent comme des cicatrices brûlantes pour nous rappeler que ces actes sont mortels et qu'il faut tout mettre en œuvre et avant tout la justice pour qu'ils soient désormais impossibles.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Bellois, Chaï Magiboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.